This conference will now be recorded.
OK. Alors, on est en train d'enregistrer. Alors, vous pouvez commencer.
OK, parfait. Donc, bienvenue au podcast présenté par la Société de leucémie et lymphome du Canada sur la leucémie lymphoïde chronique. Ce podcast fait partie d'une série de podcasts destinés à informer les personnes touchées par un cancer du sang. Je m'appelle Juliane Pelletier et je suis coordonnatrice au service à la communauté. Je fais partie d'une équipe pan-canadienne, mais je travaille plus spécifiquement pour la région du Québec. Mon rôle est d'offrir un soutien aux personnes touchées par un cancer du sang en les guidant vers les ressources qui informent, soutiennent, éduquent et responsabilisent. Aujourd'hui, je parle avec Raymond Blaise. Raymond, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui pour parler de la leucémie lymphoïde chronique.
Ça me fait plaisir de partager mon expérience.
Bien, merci beaucoup. Puis, est-ce que... désolée, là, je... OK, je peux continuer. Je continue direct, même si je me suis trompée. Ou...
Oh, oui, continue, vas-y. On a une compagnie qui va te régler ça pour nous autres.
OK, parfait. Raymond, vous êtes un bénévole très engagé au sein de la société. Peut-être vous pourriez nous parler un peu de vous, vous présenter, puis nous parler un peu de votre implication au sein de la société.
Eh bien, moi, j'habite, mon nom c'est Montréal, j'habite à Montréal. Je suis père de deux enfants adultes. Je travaille encore, mais j'ai 63 ans, fait que la retraite, c'est bientôt. Avec la société, je suis bénévole avec le programme Premier Contact. Et j'anime aussi, je co-anime en fait, le groupe de soutien pour les personnes atteintes de LLC qui se rencontrent 4 fois par année.
OK. Parlez-nous un peu de votre expérience avec la leucémie lymphoïde chronique.
OK. Ben, j'ai été diagnostiqué en 2010 suite à des prises de sang à mon rendez-vous annuel chez le médecin. Puis 2 années d'affilée, le niveau de lymphocytes était haut. Fait qu'il m'a envoyé à l'hôpital et d'une chose est menée à l'autre. Et on m'a dit que j'avais la leucémie lymphoïde chronique. Mais le médecin que je voyais à l'époque m'a dit, vous inquiétez pas, votre niveau est encore bas, ça peut encore durer longtemps, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de traitement. Fait que moi, je me suis dit que c'était pas grave, puis que j'allais juste continuer à aller mes rendez-vous. Là, c'était au début, c'était aux 6 mois que je faisais des prises de sang. Et je m'en inquiétais pas trop. Je pense que ma conjointe était plus plus inquiète que moi. Puis, un certain temps, elle s'est demandé, ben, elle s'est dit, je veux dire, elle s'est dit, ben, si oui, ça n'inquiète pas, pourquoi je m'en inquiète? Fait que, il y avait quand même la progression était lente au début, qui a commencé à s'accélérer en 2016. Et à la fin de tout début de 2017, j'ai eu un ganglion dans le cou qui a grossi. Fait que ça, c'était un signe que vraiment ça s'empirait, mais je vous avoue que j'étais en déni puis je ne voulais pas admettre. Dans ma tête, là, j'allais être dans le 20-25% des personnes qui ne sont jamais traitées pour leur LLC. Mais c'était. Ça a l'avantage d'être moins stressant quand on prend cette attitude-là. On s'inquiète moins. Mais peut-être, il y a des choses que j'aurais fait en recul, peut-être un peu différemment. Là. Je m'aurais plus informé, puis j'aurais réagi plus rapidement à la bosse dans mon cou, je pense. Et puis, en l'été 2007, j'ai eu un zona. J'ai dû manquer 2 mois de travail. Fait que le zona a frappé assez fort, ça a pris une bonne semaine. Une semaine et demie avant que ce soit diagnostiqué. Fait que là, il était assez bien installé. Mais après 2 mois, j'ai pu retourner au travail, puis j'ai repris la vie normale et j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de séquelles. Pas eu de douleur. J'ai dû prendre des pilules antidouleurs pour un petit bout de temps, là, quelques mois, mais je m'en suis bien sorti. Dans quelle mesure c'était relié au LLC, c'est très difficile à dire. Mais vu que l'LLC affaiblit le système immunitaire, on peut penser que peut-être c'était une porte ouverte aux zonas de se manifester. Fin 2017, mon ancien médecin a pris sa retraite et j'ai eu un nouveau médecin qui, lui, trouvait ma situation peut-être un peu plus inquiétante. Mais moi, je disais que je voulais reporter le traitement aussi loin que possible. Fait que lui a suggéré que je fasse des traitements radioactifs pour justement essayer de baisser le ganglion qui était très gros, très, très visible et très gros. Ce que j'ai accepté. Mais finalement, les traitements radioactifs, je pense que j'ai eu 2 ou 3 traitements, je ne m'en souviens plus, plus le rendez-vous pour aller. Une espèce de patente qui tient votre tête et vos épaules, ça vous empêche de bouger. Là. Et puis, fait que ça a pris quelques rendez-vous, mais ça n'a absolument rien donné, ça n'a rien changé. Ça, c'était un peu décevant. Pendant ce temps-là, j'étais de plus en plus. La fatigue, je la ressentais beaucoup. Là. Je me rends compte maintenant que je la ressentais bien avant la fatigue. Mais je me dis, ah, c'est parce que je vieillis, c'est parce que ça. Mais là, je me rends compte que c'est l'LC, là, peut-être depuis même début 2017, là, que la fatigue se manifestait beaucoup plus. Là. Mais en tout cas, là, on est rendu là, hiver 2018, le traitement radioactif ne fonctionne pas. Là, j'étais prêt pour embarquer dans les traitements. Alors, il m'a prescrit le traitement FCR. Qui est un chimio-immunothérapie, ou RFC, qui disent parfois en français. Et ça a débuté en avril. Avril 2018. Fait que j'ai fait 6 traitements, pas mal mensuellement. J'espérais travailler durant les traitements, et certaines personnes qui réussissent. Mais moi, ça n'a pas été possible. Là. C'était trop. J'avais pas l'énergie essentiellement là, pour fatiguer. Le vrai malaise, c'est souvent la fin de semaine après les infusions. Il y a 3 jours d'infusion par mois. La fin de semaine après, je me sentais vraiment mal. La nausée. Mais rendu le lundi, ça allait mieux. Mais je me sentais pas mal, mais moins d'énergie pour faire des choses. Là. J'ai quand même réussi pendant ce traitement, pendant l'été, en tout cas, à rembarquer sur mon vélo. Puis, je suis quand même rendu, je pense, j'ai graduellement augmenté mon kilométrage. Je pense à 35 km, qui, pour moi, normalement, j'ai fait des sorties avec mon club de 100 km. Mm-hmm. 35, c'est pas beaucoup, là, mais c'était le maximum que j'étais capable de faire. Puis, faire l'exercice durant le traitement, ça m'a beaucoup aidé aussi. Sortir de la maison, prendre de l'air. Sentir un peu mieux, là, sentir le corps là. Fonctionner. C'est ça, le traitement, c'était pas nécessairement agréable, mais c'était pas super pénible. Il y a des gens qui. Faut dire que j'ai commencé à beaucoup lire dans cette période sur l'LLC, j'ai été sur des forums, il y en a un forum excellent, le forum est en anglais malheureusement, qui s'appelle. Sur Health and Love, sur la LLC. Et j'ai lu énormément de témoignages de personnes. Et il y a des gens qui, effectivement, ce traitement-là est beaucoup plus dur. Il y en a qui sont juste capables de faire 3 cycles, par exemple. Mm-hmm. Il y en a qui ont des problèmes de neutropénie, de baisse de lymphocytes, de trous aigus, de ne se sentent pas bien, etc. Moi, je suis quand même passé à travers relativement bien. Mm-hmm. Relativement bien. Après le 4e test, là, je demandais à mon médecin si c'était possible de tester pour voir s'il y avait encore des cellules des cellules cancéreuses, surtout dans la moelle osseuse, parce que j'avais lu et vu des vidéos sur Internet avec des médecins renommés, des spécialistes en RSC, qui avancer la théorie que si on avait ce qu'ils appellent en anglais le MRD, le Minimal Residual Disease, si c'était pas si la maladie n'est pas détectable dans une cellule une cellule dans 10 000, que probablement on pourrait arrêter le traitement. Okay. Ça, c'est pas nécessairement prouvé par des études, mais c'est une hypothèse, mettons, que certains avancent. J'ai vu sur le forum que certains patients ont justement arrêté leur traitement à 3 ou 4 cycles une fois qu'ils avaient eu ça. Fait que, mais lui, il ne voulait pas faire ça, mon médecin, j'étais au CHUM. Fait que j'ai demandé une deuxième opinion au Jewish. Et bon, ils ont commencé avec la prise de sang, parce qu'ils m'ont dit on va faire le sang, parce que la moelle osseuse n'était pas encore équipée pour faire ce test-là sur la moelle osseuse. Mais ils ont trouvé quelques cellules cancéreuses dans le sang, dans l'échantillon, évidemment. Et ça fait qu'ils m'ont conseillé de continuer avec le traitement. Fait que là, j'ai continué avec le cycle 5 et 7, 5 et 6, qui étaient les plus durs. Il était vraiment beaucoup plus dur. L'impact sur la fatigue était beaucoup plus élevé. Là, les autres choses que j'ai trouvées difficiles, c'est vrai, durant le traitement, quand ils vous donnent le traitement, ils vous donnent des différentes pilules, dont des stéroïdes.
OK.
Et les stéroïdes, j'ai trouvé que je mangeais comme un débile. Ça me creusait l'appétit. Et que je dormais pas. Je dormais mal et plus ça allait, moins je dormais. Mais ça, c'est pendant les infusions. Fait que j'aurais demandé de réduire ça au maximum. Ils m'en donnaient peut-être juste une pilule sur les deux jours sur trois, mais le premier jour où on faisait le rituximab, ils insistaient de garder, de me donner du stéroïde que je devais prendre. Fait que plus ça avançait, plus ça avait d'impact. Fait que les deux derniers cycles, la première nuit, je dormais pas. J'ai passé toute la nuit debout, là. Pas mal, là. C'est pas grave, je devais pas aller au travail. Puis finalement, quand c'était fini, je pouvais rattraper mon sommeil. Mais ça fait un peu bizarre. Fait que ça, c'était... un petit peu une difficulté que j'ai vécue, là, ouais.
Puis... Dans tout ce que vous racontez, un peu votre processus, si c'était un peu à refaire, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir au moment du diagnostic?
Au moment du diagnostic ou au moment du début du traitement?
Oui,
là?
Début du traitement aussi.
Ouais. C'est sûr qu'au début au diagnostic, je pense que ça aurait été bien d'avoir une référence ou pouvoir m'informer de base, mais je suis pas sûr que je l'aurais lu.
Oui.
Je suis pas sûr que, d'étant mon état d'esprit, oui. Tu sais, tout le monde a une stratégie différente pour réagir à ça. Il y a des gens qui sont, moi, je suis une extrême, je pense, dans le déni. Il y a aussi des autres personnes qui sont catastrophées par ça, puis ça les stresse, puis ça les inquiète, oui. Puis ils gâchent leur vie présente. En s'inquiétant d'un futur théorique, parce que ça prend du temps. Ça peut prendre du temps pour évaluer. Ça peut aller plus vite, ça peut aller plus lentement. Peut-être qu'il n'y a pas jamais de traitement. Mais par contre, quand j'ai eu le ganglion, je me disais, c'est pas la laitie, ça doit être autre chose. Ce qui était totalement faux, puis j'aurais dû le savoir. Fait que j'aurais dû peut-être mieux m'informer. L'autre chose que j'ai découvert, et je ne me souviens plus comment j'ai découvert ça, mais j'ai découvert... Je ne me souviens plus que le médecin me l'a dit, mais peut-être qu'il me l'a dit, puis je l'ai ignoré. Mais qu'il y avait un numéro de téléphone où je pouvais appeler, puis parler à une infirmière, qui, elle, ferait le lien avec le médecin. Si j'avais des questions, n'importe quoi. C'est quelque chose durant mon traitement que j'ai utilisé souvent, puis que j'ai utilisé quelques fois, là, plus que quelques fois, là, quand même. Et c'est vraiment utile, parce que l'infirmière prend la question, elle va voir le médecin, puis on revient avec une réponse, mm-hmm. ou un rendez-vous, ou quelque chose, là. On n'est pas pris avec nos affaires. Parce que parfois, j'avais des questions. Là, après la fin du traitement, j'avais un rhume qui en finissait plus. Fait que j'ai téléphoné quelques fois, etc. L'autre chose, c'est que ce que je ne savais pas avec le traitement, c'est que les trois mois après la fin du traitement étaient plus durs que durant le traitement lui-même. Parce que je pense que l'impact cumulatif sur mon sang était là.
OK.
Et j'ai souffert d'anémie. Et j'ai attendu, c'est à fin de mon... C'est mi-septembre que les traitements ont terminé. J'ai attendu à fin octobre pour le rendez-vous du médecin. Mais pour le mois d'octobre, juste monté au deuxième étage chez nous, j'étais essoufflé. Et après le médecin, il m'a rapidement booké pour une pour un transfert de sang. Là. Et avec ça, là, immédiatement, je me suis senti mieux.
Okay.
Fait que ça a beaucoup aidé. Puis là, graduellement, mon niveau de cellules rouges a commencé à augmenter. Fait que c'est ça. C'est difficile de savoir quel genre d'impact le traitement aura sur nous. En partie, on aimerait bien que le médecin puisse nous le dire, mais l'autre chose, c'est qu'on je constate dans les témoignages que je lis que les gens réagissent différemment.
Puis, lorsque votre médecin a déterminé comment traiter, dans le fond, votre cancer, comment ça s'est déroulé pour vous? Est-ce que vous avez été capable de peut-être prendre des décisions ou de faire des choix?
Ben, en fait, non, il n'y avait pas vraiment de... Au niveau du choix de traitement, il n'y avait pas vraiment de choix de traitement. Parce qu'en première ligne, moi, je suis à plus de 65 ans, je suis en forme, je fais de l'exercice, je n'ai pas de comorbidité, d'autres problèmes de santé. Il y a une thérapie qui est indiquée, puis une thérapie qui est payée. Et pour ça, c'est l'autre volet, c'est vrai, l'autre volet dont j'ai oublié de parler. C'est que pour le RCR, les gens qui ont ce qu'on appelle l'IGVH, une mutation de l'IGVH, c'est un terme technique là, qui a à voir avec les cellules. Mais ces gens-là, quand leur IGVH a une mutation, le traitement est plus efficace. Il y a une chance sur deux que la personne ait une rémission de 10-15 ans.
Okay.
Tandis que s'ils n'ont pas la mutation, plutôt les chances, c'est que ça va durer 5-6 ans peut-être avant d'avoir un autre, avant d'avoir besoin d'un autre traitement. Mais ce test-là n'est pas fait au CHUM, il est fait au Jewish, mais il n'est pas fait au CHUM. Et parce que la raison que le médecin m'a expliqué, c'est que même si on a le résultat, le gouvernement ne paye pas l'autre thérapie, qui serait une nouvelle thérapie qui s'appelle l'ibrutinib, qui est pas mal plus dispendieuse. Tandis qu'il semblerait que, à moins qu'on a une variation génétique ou un défaut génétique qui s'appelle 17P, qui vraiment rend le RCR inefficace. Et que ça, en passant, c'est important de demander au médecin de comprendre notre profil génétique, parce qu'il est dépendant des mutations qu'on a, 13, 11, 17, ça a un impact sur les traitements qui sont recommandés. Et ça, c'est important. Mais vu que le médecin m'a dit, écoute, je ne fais pas ce test-là ici, les GHV, parce que ça ne change pas pour le traitement. Et même quand j'étais au juice pour ma deuxième opinion, ils m'ont demandé si je l'avais. J'ai dit non, mais j'ai dit, je ne veux pas le savoir maintenant, c'est trop tard. Moi, je préfère de nouveau vivre avec l'idée que j'ai la mutation et que ma rémission va durer longtemps. Et je ne veux surtout pas savoir que je ne l'ai pas et elle risque de durer moins longtemps. Je préfère vivre dans l'illusion. Puis je pense que c'est des choix qu'on fait pour notre bien-être psychologique. Parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, il n'y a rien de sûr. La maladie elle-même, elle, c'est très hétérogène. Les gens réagissent différemment, ils réagissent différemment au traitement. Fait qu'il y a beaucoup, on est un peu dans une zone d'ambiguïté. Fait que, quelque part, en tout cas, c'est mon opinion, là, je ne pense pas qu'il faut chercher la vérité parce qu'on ne va pas être capable de la trouver. Ce qu'il faut, c'est essayer de prendre une posture qui fonctionne bien pour nous, psychologiquement, là, qui nous permet de passer à travers et de dealer avec toute cette incertitude. Moi, pour moi, personnellement, me dire, j'ai la mutation, je vais être correct pour 15 ans, je me fixe là-dessus, puis si ce n'est pas ça, je le verrai bien quand ça viendra. Et je ne veux pas y passer maintenant. Pour moi, ça fonctionne. Je sais que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais pour moi, ça fonctionne.
Puis quand vous parliez un peu des traitements que vous avez eus ou que vous avez encore, vous avez parlé de la fatigue. Est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires que vous avez remarqués suite au traitement?
Hormis la nausée, la, mais la fatigue, c'est vraiment après, quand j'ai quand même mon taux de cellules rouges a vraiment baissé, c'est l'anémie. Mais neutrophile, qui est une lymphocyte très importante, il a baissé un petit peu quelquefois, puis le traitement a été retardé d'une semaine, puis après ça, il est remonté. Fait que je n'ai pas eu de problème. Il y a des gens qui ont des problèmes avec neutrophile. Mais moi, j'en ai pas eu. Puis, juste après la fin du dernier traitement, j'ai attrapé une espèce de tout rhume, là, qui m'a pris 4 mois à débarrasser. Ça a traîné jusqu'en février. Le médecin me donnait des antibiotiques. Ça a pris. Soit finalement, je pense que le deuxième ou troisième que j'ai pris autour de Noël, finalement, a eu un impact. Ça a été difficile aussi. Là, j'ai même été. Je toussais assez ou assez fort que je me suis fait mal à la côte, dans les muscles, dans les côtes. Puis j'ai été voir une physio. Et mon agréable surprise, ça a beaucoup aidé. Elle m'a fait un massage qui a permis de relaxer le muscle dans la côte et qu'il puisse guérir un petit peu.
Okay.
Et ça a vraiment aidé parce que je toussais toujours, surtout le matin. C'était pénible. Ça aussi, là, j'ai été voir le médecin, j'ai été voir le médecin pour les poumons, des rayons X, etc. Je pense que j'avais probablement un pneu de pneumonie. Et puis, en tout cas, finalement, j'ai pu retourner au travail 2 jours/semaine en janvier, puis j'ai fait un retour progressif. Mais ça a pris jusqu'à janvier pour que je puisse faire 2 jours, puis c'est bonne chose, je faisais juste 2 jours parce que j'avais besoin du repos entre les journées de travail.
Puis, durant cette période-là, est-ce que vous avez reçu du soutien? Est-ce que vous êtes allé chercher du soutien?
Bien, j'ai pas vraiment été de soutien. Moi, je suis une personne qui, ça me dérange pas d'être seul. Ça me dérange pas d'être seul pendant la journée. Mais j'étais vraiment content quand ma conjointe revenait du travail le soir. Je pense que si j'avais vécu seul, ça aurait été difficile. Ça aurait été vraiment être seul à longueur de journée et être isolé comme ça, là, c'est tough. C'est vraiment tough. Fait que j'étais vraiment. Et puis évidemment, elle m'a soutenu quand je ne me sentais pas bien. Puis elle me donnait un petit coup de main avec ci, puis avec ça. Là. Puis parfois j'avais l'impression que c'était autant difficile, si pas plus difficile pour elle que pour moi. Difficile d'une autre façon, là, parce que. Elle avait l'inquiétude du traitement, l'inquiétude de l'impact avec sa vie au travail qui continuait, puis toutes ces autres choses dans sa vie qui continuaient. Puis en plus de ça, elle avait ça sur mon dos. Ça dit que moi, tout ce que j'avais à faire, c'est de m'occuper de moi-même. Mm-hmm. Fait que j'ai bien vu que les proches aidants, c'est quelque chose. C'est quelque chose, surtout quand on est occupé. Ça reste de notre vie. Fait que j'ai beaucoup apprécié ça. Comme soutien. Et aussi, moi, j'ai trouvé ça intéressant et motivant de visiter le forum tous les jours, là, puis d'entendre ce que les gens disaient, leur haute expérience, puis participer parfois à quelques discussions. Puis j'ai aussi fait du soutien au premier contact avec une personne, puis ça aussi, ça me donnait un petit projet, quelque chose à faire, là. Parce que pendant l'été, c'était agréable, mais rendu à l'automne, là, je commence à trouver les journées longues, puis il fait des froids dehors, etc.
Mm-hmm. Puis, comme on disait tantôt, vous êtes, en fond, impliqué, vous organisez un peu le groupe de soutien pour la LLC. Pour vous, dans le fond, est-ce que ça vous aide? Qu'est-ce que ça vous apporte de parler avec des gens qui vivent la même expérience que vous?
Ouais, ça, c'est pas une question. Je ne sais pas si je peux décrire ça. Il faut dire que peut-être, professionnellement, c'est pas quelque chose que je fais énormément maintenant, mais dans le passé, j'ai fait beaucoup d'animations de groupes, de réunions.
Okay.
Et c'est quelque chose que j'aime faire.
Mm-hmm.
Fait que c'est quelque chose que je trouve le fun. C'est avec juste à ce point de vue-là, c'est agréable. Et pour moi, c'est une façon de contribuer, puis d'écouter les gens, puis entendre leur expérience. Puis ça me permet aussi de partager ce que j'ai appris, partager mes connaissances. Fait que je trouve que c'est intéressant comme ça.
Qu'est-ce qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic de LLC?
Bien, je lui dirais tout d'abord ne pas perdre l'espoir. Essayer de voir ces choses-là, cette chose-là plus dans le long terme. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir peut apporter. On a quand même un bon système de santé et des bons médecins. De se renseigner, ce que moi je n'ai pas fait là, mais de se renseigner, de faire attention avec l'Internet, parce qu'il y a du bon et il y a du mauvais. Il faut faire attention, bien regarder la date, par exemple, des documents qu'on regarde, parce que si c'est moindrement vieux, il y a énormément d'évolutions, surtout dans les traitements de la LLC dans les deux dernières années. Et ce n'est pas du tout le portrait qu'on avait il y a 2-3 ans. C'est beaucoup plus optimiste. Il y a beaucoup de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements. Ils ne sont pas tous financés ici. Mais si on en a besoin, souvent, on peut l'obtenir si on en a vraiment besoin, si notre situation s'aggrave. Fait que, c'est ça, pas perdre espoir, d'essayer de continuer à vivre sa vie puis pas se laisser obséder par ça. Parce que, vous savez, on peut se faire tuer en traversant la rue aussi. Là. Pour moi, l'activité physique, c'est important, ça a toujours été important. Je lis qu'il y a des études qui démontrent que ça aide la santé. Vous savez, je pense que ça m'a aidé à travailler, passer à travers le traitement, puis toutes ces épreuves-là. Je n'ai pas de preuves, non, mais c'est une opinion. Mais je le fais aussi surtout parce que j'aime ça. Et j'aimais ça aussi, j'ai continué pendant le traitement, je trouvais que ça faisait une différence, surtout quand on est assis, on couché toute la journée, puis on bouge pas là, on devient vraiment sclérosé. Fait que j'essayais de faire même des exercices légers, des exercices de mobilité, du tai chi ou d'autres choses comme ça, là. Pas des gros exercices tous les jours, essayer de faire, aller prendre une marche, sortir. Parce que sinon, si on reste dans notre trou, on va sombrer. Là. Fait que ça, c'est difficile. C'est ça, vivre le moment présent. Puis, si ça vous tente, participer à un groupe de soutien, parler à d'autres personnes qui ont la même condition que vous. Évidemment, renseignez-vous sur comment est-ce que je peux rentrer rapidement en contact avec mon médecin, par exemple, au CHUM, ils ont l'infirmière. Qu'on peut téléphoner, le numéro de téléphone, laisser un message. Et aussi, par exemple, au CHUM, il y a la Fondation Virage qui a des programmes qui aident les gens aussi. Ils ont un programme, ils ont un kinésiologue, fait que moi, après la fin de mes traitements, là, il m'a conseillé un programme d'exercice pour me remettre en forme. Fait que c'était vraiment des exercices sur mesure, pas d'état où j'étais, là, c'était super utile, ça. Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut trouver un espace ou une façon de penser, d'entrevoir psychologiquement cette maladie-là pour qu'elle n'envahisse pas toute notre vie. Puis parfois, ben ça nous, comme moi, le déni, ça fonctionnait, mais ça, c'est des avantages.
Oui.
Il y a d'autres stratégies qui ont peut-être plus d'avantages que ça. Mais je pense que la santé physique, là, c'est de garder sa santé psychologique, son moral, puis c'est tout aussi important pour passer à travers.
Et merci beaucoup Raymond de nous avoir rencontrés pour parler davantage de la leucémie lymphoïde chronique. C'est vraiment généreux de votre part.
Ça me fait plaisir, puis j'espère que ces mots-là peuvent aider quelqu'un.
Si vous avez des questions sur la leucémie lymphoïde chronique ou si vous avez besoin de soutien, tout au long de votre expérience avec le cancer, je vous encourage à contacter le spécialiste de ressources communautaires près de chez vous. Communiquez avec la SLLC au 1-833-222-4884. Vous pouvez également visiter notre site web à la llscanada.org. Vous y trouverez des fiches de renseignement, des livrets et des diffusions web dédiées à vous en apprendre davantage sur votre type de cancer du sang. Ce podcast a été rendu possible grâce au soutien de Janssen. Allô?